Bonjour à vous tous, bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse à l'histoire de Madame Pommery en Champagne. Nous découvrons également une plateforme de vente de baskets entre particuliers créée par deux Rouennais. Et puis on file à Annecy où la ville veut sauver les bébés cygnes de la noyade en mettant en place un barrage flottant. Mais commençons par l'actu de ce lundi 17 juin. Bonjour Denis Farouf.
Bonjour Frédéric Le Tournier, bonjour à tous.
La philo au bac, c'était ce matin avec des réflexions sur le temps, le travail, les lois, la liberté, Freud ou Montaigne.
Tout s'est bien passé malgré un appel à la grève de la surveillance, Victoria.
Oui, à 7 surveillants dans chaque salle d'examen et à la sortie, toujours autant de lycéens mitigés, vous l'entendrez.
On retourne ce midi en Rhône-Alpes après les intempéries dévastatrices de la grêle.
Tous les agriculteurs ne sont pas assurés, loin de là, on va vérifier sur place. On verra aussi avec un climatologue ce que l'on peut attribuer ou pas au réchauffement climatique avec ce genre d'événement.
France-Nigeria à Rennes ce soir, c'est l'occasion pour nous de parler de la montée en puissance du foot féminin en France et pas seulement d'ailleurs.
Le foot commence à 20h ce soir sur France Bleu avec Vanessa Lambert et Germain Harry. Et nous serons à Rennes avec Nadia Benmokhtar, la consultante de France Bleu aux côtés de Bruno Salomon.
Allez les Bleus et bienvenue à tous dans Une Heure en France.
Une Heure en France, Frédéric Le Tournier, Denis Farouf sur France Bleu.
On a appris il y a quelques minutes qu'une présidente de la cour d'assises des Yvelines a été agressée à son domicile.
Qu'est-ce qui s'est passé, Laetitia Evelyne ?
Eh bien écoutez, elle a été blessée au visage ce matin chez elle, effectivement au sud-est de Mantes-la-Jolie, a priori par deux auteurs qui sont toujours en fuite. L'arme utilisée a été décrite comme une arme de défense, similaire à un LBD, mais pour le moment, pas de confirmation au niveau du parquet, qui a confié l'enquête à la section de recherche de la gendarmerie de Versailles, qui a mis un gros dispositif en place. On ne sait pas non plus si elle a été prise pour cible parce qu'elle est présidente de cour d'assises. En tout cas, la ministre Nicole Belloubet s'est déjà émue sur Twitter. Elle écrit « J'apprends avec indignation et émotion l'agression. Toutes les forces de l'ordre sont mobilisées pour retrouver les auteurs. »
Merci pour ces premières informations. Laetitia Evelyne.
C'est ce matin qu'a eu lieu la reconstitution du meurtre d'Alexia Daval par son mari Jonathan.
On avait retrouvé le corps partiellement brûlé en octobre 2017 dans le bois des Moulins en Haute-Saône entre Dijon et Vesoul. Le procureur de la République de Besançon vient de s'exprimer, Étienne Manteau.
Face notamment à la demande pressante de ses beaux-parents qui l'ont imploré de dire toute la vérité, et après un temps d'échange avec ses conseils, M. Daval a finalement admis qu'il avait non seulement donné la mort à Alexia Daval, mais qu'il avait également procédé à cette crémation partielle du corps. Monsieur Daval est apparu soulagé, il s'est adressé à la famille et il a demandé pardon, même si il a aussitôt rajouté qu'il était impardonnable, mais il a demandé pardon. C'était un moment d'une grande émotion et la famille, je ne sais pas s'ils accepteront de vous parler, mais est apparu très soulagé. Ils avaient besoin d'entendre la vérité. Clairement, il apparaît très vraisemblable qu'il a agi seul et il nous a démontré en tout cas aujourd'hui que physiquement, il était tout à fait capable d'avoir accompli l'ensemble des faits seul.
Jonathan Daval qui a donc admis avoir donné la mort et avoir brûlé partiellement le corps d'Alexia Daval, c'était il y a quelques minutes.
On veut tout savoir sur le bac philo de ce matin, le stress ou pas, les sujets, ça peut rappeler des souvenirs, et puis la menace de grève de surveillance.
Eh bien on débriefe cette matinée avec vous, Victoria Coussa.
Une heure au moins qu'ils ont rendu la copie, mais les crampes à l'estomac ne passent toujours pas pour certains lycéens. Écoutez ceux de Tours au micro France Bleu Touraine.
J'ai réussi à placer 2-3 citations que j'ai apprises hier, donc c'est bien, c'est parfait. Moi j'ai pris le sujet sur la liberté, reconnaître ses devoirs, est-ce renoncer à la liberté? Et bah, je suis pas sereine.
Je suis sorti, j'étais pas bien, là je suis pas bien, demain je serai pas bien.
Tu peux avoir 6 comme 10 comme 15, là c'est grave aléatoire. Maths c'est soit t'as bon soit t'as faux en vrai, du coup là... Tu peux avoir bon et faux en même temps.
C'est la philo.
C'était quoi les sujets ce matin, Victoria ?
Alors si on pioche dans les dissertations, est-il possible d'échapper au temps ? Autre question, le travail divise-t-il les hommes ? Ou encore, les lois peuvent-elles faire notre bonheur ? Frédéric et Denis, vous avez 4 heures.
Merci, c'est gentil. Et l'autre stress du bac de philo, la grève des surveillances, mais finalement, tout s'est bien passé.
Oui, car les proviseurs ont prévu un tiers de surveillants en plus. C'était la consigne du ministère de l'Éducation nationale. Grève suivie par 2,5% des enseignants devant les lycées et certaines académies sont bloquées l'entrée. Contre la réforme du bac dans 2 ans, moins d'épreuves finales, plus de contrôle continu et le risque, d'après eux, de créer encore plus d'inégalités entre les lycées et donc entre les élèves.
Et cet après-midi, les élèves de première SES et L passent le français. C'est un grand jour également pour eux. Merci, Victoria Coussa.
Des agriculteurs ont perdu 80 à 100% de leur récolte après les intempéries de samedi en région Rhône-Alpes. Un quart d'heure de grêle qui a anéanti des mois de travail qui compromet l'avenir.
C'était la ruée ce matin chez les assureurs dans les zones frappées. Dans la Drôme, les agences sont prises d'assaut. À Romans-sur-Isère, la police a dû intervenir pour calmer les esprits. Pour les sinistrés, il y a plusieurs procédures différentes. Florence Baudet.
Oui, parce que la grêle n'est pas couverte par l'état de catastrophe naturelle. C'est un risque assurable pour les véhicules comme pour les bâtiments. Ceux qui ne sont pas assurés ne seront pas indemnisés. Ceux qui sont couverts doivent faire une déclaration de sinistre auprès de leur assureur avant vendredi. Photo à l'appui, c'est toujours mieux. Ensuite, il faut attendre le passage de l'expert avant les réparations définitives. Pour les vieilles voitures très endommagées, ce sera un problème car elles risquent d'être classées en épave. En parallèle, les communes vont aussi demander la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle. Mais ça, c'est pour les dégâts liés aux inondations. Dans ce cas, il faut également faire une déclaration de sinistre et les indemnisations seront débloquées une fois l'arrêté publié au journal officiel. Cela peut prendre quelques semaines. Enfin, pour les agriculteurs, ce sont les calamités agricoles qui sont activées. Le ministre Didier Guillaume a promis une procédure accélérée.
Florence Baudet à France Bleu Drôme Ardèche.
Et quel est le lien entre cette nouvelle calamité et le réchauffement climatique? D'ailleurs, y a-t-il un lien?
Pour la grêle, on ne peut pas l'affirmer. Pour la répétition d'épisodes violents, oui, le lien existe. Écoutez le climatologue Robert Votard, directeur de recherche au CNRS.
On a encore trop peu d'études, trop peu de technologies qui nous permettent de modéliser la grêle dans les simulations climatiques. En revanche, les conditions météo qui amènent à ces phénomènes orageux en général et précipitants, on sait que dans le sud de la France, les pluies intenses se sont intensifiées d'environ 20% depuis 50 ans. Dû au changement climatique, et cette augmentation est amenée à se répéter. Alors, comme je disais, pour la grêle, c'est encore très difficile de dire, mais en tout cas, pour les précipitations, c'est tout à fait clair.
Plusieurs centaines de salariés de General Electric ont empêché ce matin la tenue à Belfort de la première réunion d'information sur le plan social qui doit frapper le site.
Le directeur général de General Electric, arrivé sous les huées de salariés, a dit regretter qu'un débat serein et constructif n'ait pas pu se tenir.
Emmanuel Macron a inauguré ce matin le salon aéronautique du Bourget.
Avec une première journée placée sous le signe de l'ambitieux projet du futur avion de combat franco-allemand.
La République En Marche donne le coup d'envoi des municipales 2020 en ce moment même à Paris.
Le parti présidentiel va dévoiler des noms de candidats, notamment pour les grandes villes, des noms qui circulent déjà, Nicolas Ballu.
Une quinzaine de noms seulement, mais qui sont censés refléter la diversité des situations. La République En Marche veut continuer de tirer profit de l'effondrement de la droite et de la gauche, mais le parti doit aussi composer avec les réalités locales. Le dégagisme a donc vécu. Le parti pourra soutenir des maires sortants Macron compatibles, quitte à freiner les ambitions de ses propres troupes moins bien ancrées. Ce pourrait être le cas à Orléans, Nice ou Amiens par exemple. En revanche, certains maires républicains pro-Macron, mais retournés voter Bel Ami, peuvent voir arriver un marcheur dans leur pied. Ce sera peut-être le cas d'Arnaud Robinet à Reims. Et tous les maires signataires d'une tribune de ralliement à Emmanuel Macron il y a quelques jours ne sont pas assurés de recevoir le soutien de La République En Marche. Reste que le parti assure qu'il scrutera de près toutes les attitudes sur plus d'un millier de communes de plus de 9000 habitants.
Nicolas Ballu.
Sans vouloir déranger une famille américaine en vacances dans le sud de la France, on a quelques infos sur le séjour des Obama près d'Avignon.
Barack et Michel ont visité le Palais des Papes hier soir en début de soirée. Leurs filles Malia et Sacha ont fait le marché de l'île sur la Sorgue. Et ce séjour en Provence a relancé l'histoire des origines de l'ancien président qui aurait des ancêtres dans le Vaucluse, Elsa Vandvielle.
Quand Barack Obama se fait élire en 2008, le maire de Pernes-les-Fontaines, Pierre Gabert, découvre que le nouveau président américain a un peu de sang vauclusien.
Il y a un de ses ancêtres qui s'appelait, et il y a l'hôtel de Joca, Brassier de Joca, qui avait dû partir en Amérique pour faire fortune sur Romain. Et donc, de mariage en mariage, ça a donné naissance au président des États-Unis.
En résumé, il est le descendant d'un protestant nantais débarqué aux États-Unis au XVIIe siècle. Il y épouse Suzanne Brasseur, originaire, elle, de Pernes-les-Fontaines. Donc Barack Obama, 1% pernois.
Du coup, maintenant, on se l'accapare, quoi. On dit à tout le monde que Barack Obama est pernois. Parmi nos hommes célèbres, on a eu un orateur sacré de Louis XIV, Fléchier. On a eu un maître de chapelle de Louis XV, Esprit Blanchard. Et puis maintenant, on a Barack Obama.
Bon, par contre, tous les pernois ne sont pas au courant.
Ça me dit rien. Brasseur. Il y a eu des brasseurs, des acteurs, brasseurs.
Certains habitants y voient un lien avec sa visite.
C'est back to the roots, comme ils disent. Voilà, il faut revenir à ses racines et ça, c'est important aussi pour lui.
Du moins, si Barack Obama le sait, et ça, le maire en doute.
Oh, ça m'étonnerait. Vu de Washington ou de New York, Pernes-les-Fontaines.
Qu'il le sache ou qu'il l'apprenne, la ville de Pernes-les-Fontaines l'accueillera bien volontiers.
Elsa Vandevielle et le lien de Barack Obama avec Pernes-les-Fontaines près de Carpentras.
13h10 sur France Bleu, la suite du Nord en France, c'est le football féminin avec la suite de la Coupe du Monde. La France, déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, joue ce soir à Rennes face au Nigeria. À Rennes, où une école primaire a intégré la Coupe du Monde dans son projet pédagogique, on suit la compétition, les classements et on fait donc des maths avec des savants calculs.
Nous sommes à l'école Beau Soleil de Cesson-Sévigné près de Rennes. On est curieux de découvrir avec vous Cédric Guillou.
Ces élèves de CM2 ont trouvé un moyen ludique de suivre la Coupe du Monde féminine. En arrivant en classe, chaque matin, ils notent les scores des matchs sur un grand tableau.
On met les scores et après on met des groupes A, B, C, D, E, F. Et du coup, chaque jour, quand il y a un match, on remplit le score, on met plus 1, moins 3, etc. Et après, ça nous donne le résultat, qui est premier, qui est dernier, le classement.
L'idée vient de leur institutrice, Lucille Kochlund.
C'est un projet pédagogique sur le foot, les valeurs, l'EMC. Et donc, on suit les matchs comme ça. On est aussi un petit peu dans les mathématiques, si on peut dire, puisqu'on remplit des tableaux des matchs. Les buts pour, les buts contre, on aborde les nombres négatifs.
Un bon moyen d'apprendre les mathématiques. En revanche, pour ce qui est de la Coupe du Monde féminine, il y a encore du travail.
Alors, on peut nous dire qui est premier du groupe D, par exemple.
Le groupe D, c'est qui ?
Je crois que c'est avec le Brésil, mais donc c'est l'Australie qui est passée.
Il leur reste encore 3 semaines de cours et de compétition pour être incollable.
Cédric Guillou à l'école avec la Coupe du Monde de football.
France Bleu est la radio officielle de la Coupe du Monde et ce soir, comme à chaque match de l'équipe de France, c'est soirée spéciale. Bonjour Vanessa Lambert.
Bonjour à tous.
Ça commence à quelle heure sur France Bleu? Comment et avec qui?
Alors ça commence dès 20h, une heure avant. Nous on se prépare, on fait monter la pression. On sera bien sûr à Rennes avec Bruno et Nadia. On sera au bord du terrain. On sera dans les fan zones. Alors à Rennes, mais partout en France parce que c'est FIFA Fan Experience comme on les appelle. Il y en a un petit peu partout. On ira dans les bars et puis on sera bien sûr avec les auditeurs de France Bleu qui se préparent aussi pour le match.
Vous avez décidé, Vanessa, de parler de la montée en puissance de la couverture des médias pour le foot féminin.
Oui, je suis surprise et je suis agréablement surprise même par ce traitement médiatique. Elles sont partout, les Bleues. On peut pas y échapper. On allume la télé, on les voit dans les publicités, on voit des reportages. Elles sont dans les journaux. Si on prend la presse sportive, par exemple, on a un seul quotidien sportif en France, c'est l'Équipe. C'est la même couverture que pour les garçons. Quand il y a eu le lancement de la Coupe du Monde, ça a été 17 pages le premier jour. 17 pages uniquement consacrées aux filles. Elles font la une à chaque fois. Alors ce matin, c'est un peu particulier parce qu'il y a Neymar qui est en une et qui pourrait partir de Paris. Donc on a préféré à l'Équipe mettre Neymar. Mais sinon, c'est jour de match, les filles en une. Lendemain de match, les filles en une, avec plusieurs articles. Et puis surtout, ce qui est incroyable, c'est que le journaliste emblématique de l'Équipe, Vincent Duluc, il a fait le choix de suivre les filles. Il aurait très bien pu dire, hey, les gars, je viens de faire une grosse saison, je pars en vacances. Ouais. Il aurait pu suivre les gars de Didier Deschamps qui joue aussi en ce moment en amical.
Il n'est pas comme ça, Duluc.
Et il s'est dit, non, je vois que les temps changent, que le monde change et j'ai envie de les suivre.
Alors vous êtes une fière représentante évidemment de cette montée en puissance dans les médias. Vanessa, vous avez toujours aimé le football?
Toujours, depuis que je suis toute petite. Moi, j'avais un papa qui joue au foot, un grand-père, des oncles dirigeants et j'ai toujours aimé ça. Ouais.
Ceci explique cela.
Elle explique donc ça. La consultante de France Bleu aux côtés de Bruno Salomon aux commentaires est avec nous depuis Rennes. Bonjour Nadia Ben Mokhtar.
Bonjour.
Bonjour Nadia. Pourquoi comment vous expliquez cet engouement en France, mais aussi en Italie, en Angleterre, où les audiences dépassent les espérances? Pourquoi ça décolle maintenant? Parce que la Coupe du Monde, évidemment.
Oui, je pense que évidemment la Coupe du Monde a toujours un impact important. Le fait qu'elle soit retransmise dans de bonnes conditions, que ce soit à la télé ou dans les stades, on a des beaux stades, des stades pleins, et ça, le public ne s'y trompe pas d'un point de vue télévisuel. Ça donne vraiment un rendu de qualité. Et puis le niveau de jeu, tout simplement, qui augmente année après année. On a beaucoup, de plus en plus de pays qui investissent dans le football féminin, qui le professionnalisent. Et aujourd'hui, ça se voit parce qu'on a de superbes rencontres. Donc c'est un peu tous les ingrédients pour que le public réponde présent. présent.
Mais vous pensez que le foot féminin est en train de s'ancrer définitivement en France, parce qu'après la Coupe du Monde, après la fête, on va revenir aux matchs de première division?
Oui, j'espère que ça aura un impact positif. Alors déjà la saison dernière, avec de plus en plus de matchs retransmis en télévision sur des chaînes de grande audience, avait déjà été un premier pas. Là, cette Coupe du Monde va venir renforcer tout ça. Si les Bleus se qualifient pour les prochains Jeux Olympiques, on aura de nouveau un gros temps fort dès l'année prochaine. Donc espérons, oui, qu'on surfe sur cette Coupe du Monde pour faire un vrai héritage derrière et que la pratique globalement en bénéficie.
Et on vous dit à ce soir, 21h, au commentaire avec Bruno Salomon.
Merci à toutes les deux. Vanessa Lambert, la féminisation du football en France ce soir à 20h, avant France-Nigéria, évidemment.
Vous vouliez rajouter 3 secondes.
Oui, mais je vous disais, je vous parlais de Vincent Duluc, il sera dans l'avant-match avec nous depuis Rennes tout à l'heure. Bah oui,
parfait,
voilà,
bonne nouvelle.
Soyez complète, Vanessa Lambert.
Et merci comme à la galette, Rennes.
Et merci à Nadia Beng-Mokhtar également. Dans un instant, on est en Champagne à la maison Pommerie, à l'occasion des 200 ans de la naissance de Madame Pommerie.
Ensuite, on découvre une plateforme de revente de sneakers. Des baskets vintage.
Oui, c'est pas la barre chocolatée, rien à voir.
Et on file au lac d'Annecy. Pour l'heure, voilà la météo.
FranceBleu.fr.
À écouter, à réécouter, à voir et à revoir, à lire et à relire. Tout France Bleu est sur FranceBleu.fr.